Page 119 de l'édition des quatre évangiles en un seul, du chanoine Weber, « Si tu savais le don de Dieu » aux éditions Tradition monastique de Flavigny. Réimpression de l'édition de 1913, page 119. Guérison d'un paralytique. Sur la rive opposée, une foule immense attendait Jésus. Dès qu'il fut de retour, elle l'entoura et continua de le suivre le long du lac. Quelques jours après, il revint en sa ville de Capharnaüm. Dès qu'on l'apprit, la multitude accourut si nombreuse que ni la maison, ni l'espace qui se trouvait devant la porte ne pouvaient la contenir. Jésus était assis et enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi, les pharisiens, c'était une partie du peuple qui étudiait énormément la Sainte Écriture et la tradition des prophètes, et qui étaient très observants, très pratiquants, on dirait de nos jours. Les docteurs de la loi, eux, étaient plus proches des prêtres de Jérusalem, et étaient encore plus savants que les pharisiens, qui étaient, si vous voulez, plus dans la connaissance des Écritures et des traditions, et dans la pratique et la piété. Les docteurs de la loi étaient aussi, parmi eux, pieux, étaient plus, si vous voulez, plus théoriques. Occupaient des sièges près de lui. Ils étaient quand même intéressés à écouter cet homme qui venait de Nazareth, un petit village du Nord, mais qui semblait être peut-être le Messie. Alors ils étaient très intrigués par cet homme et ils voulaient l'écouter et scrutaient tout ce qu'il pouvait dire. Ils étaient venus de Jérusalem et de toutes les bourgades de la Galilée et de la Judée. La Galilée, c'était plutôt la Terre Sainte au nord. La Judée, c'était le territoire qui est autour de la capitale, Jérusalem. Avec la tribu de Judas, mais un des fils du patriarche Jacob, Israël, surnommé Israël, qui donnera donc son nom à tout le pays, et la tribu de Benjamin. Mais je ne peux pas vous refaire l'histoire sainte non plus. La vertu du Seigneur était là pour guérir. Je précise que le chanoine Weber brode un peu. Et quand il s'agit de commenter, il le met aussi dans le texte. Parfois c'est en italique, parfois ça ne l'est pas trop. Il y a une traduction un peu large. Si vous voulez une traduction exégétique absolue sur l'hébreu et sur le grec, vous allez à la Bible de Jérusalem et je vous souhaite bien du plaisir parce que parfois c'est un peu technique, mais vous avez aussi la Bible crampon qui est sur l'hébreu. Mais cette version a été bénie par l'Église et donc je l'assume totalement. Voilà que, sur ces entrefaites, arrivent quatre hommes portant un paralytique couché sur un grabat. Ils cherchent d'abord à entrer pour le déposer devant Jésus. Mais ne pouvant point y réussir à cause de la foule, ils montent sur le toit, le découvrent au-dessus de l'endroit, donc c'est des maisons plates avec des terrasses, mais là, il y avait les entrelacs pouvaient être cassés. Le découvrent au-dessus de l'endroit où ils se trouvaient, font un trou dans le toit, rien que ça, et par l'ouverture qu'ils avaient faite, ils descendent le paralytique couché sur son grabat et le déposent aux pieds de Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Or, les scribes, c'est comme les docteurs de la loi, en plus simple. C'était ceux qui connaissaient parfaitement l'écriture, leur nom de scribe, qui recopiaient la Bible, la Torah, les prophètes, mais qui les étudiaient moins que les docteurs de la loi. Les pharisiens pensaient en eux-mêmes. Quel est celui-ci? Que dit-il? Il blasphème, c'est-à-dire qu'il insulte la dignité divine. Qui peut donc remettre les péchés sinon Dieu seul? Jésus pénétra leurs pensées. Alors, Donc, au passage, je fais une lecture continue, la plus rapide possible. Pour connaître les pensées, il n'y a que Dieu qui puisse les connaître. Les exégètes modernes, que je critiquerai de manière acerbe et pas chrétienne du tout pendant le cours de mes catéchismes, donc vont dire « oui, il a deviné ». Pourquoi ? Pour retirer à Jésus sa divinité, ou une trop grande divinité évidente. Et ça les insupporte. Eh bien, ça leur passera avant que ça nous reprenne. Et donc, Jésus, lui, connaît les pensées, et il n'y a que Dieu qui connaisse les pensées. C'est très important, parce que vous avez, par exemple, des pasteurs évangéliques ou des prêtres charismatiques qui vont, lors d'assemblées de prière, se recueillir et dire « un tel a fait ça, a eu telle guérison, un tel a ceci, un tel a cela ». Eh bien, ça, c'est un charisme, c'est un don de Dieu, parce qu'il ne peut pas le savoir sans que Dieu lui dise. Alors, qu'il le ressente par une locution intérieure, que ce soit son ange gardien qui lui révèle, que Dieu dise à l'ange gardien « dis-lui ça », et qu'il le ressente dans son âme, eh bien, ça ne peut être qu'extérieur. En effet, il n'y a que Dieu qui connaisse vos pensées. Votre intelligence et votre volonté est un sanctuaire absolu. Si la Vierge Marie, si votre ange gardien connaissent vos pensées, c'est par une révélation divine. Ça, c'est très important. Parce que vous avez des gens qui sont un peu superstitieux et qui parfois se disent « le démon, il sait tout ce que je pense ». Tout ce que vous faites, oui, il le sait. Parce qu'il vous voit agir. Tout ce que vous dites, il le sait. Vous le prononcez. Par contre, dès que c'est dans votre pensée et que vraiment vous ne le dites jamais, ça, il ne peut pas le savoir. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, oui, mais alors donc il ne faut pas que je dise certaines choses, même à des amis, même en confession, tout ça. De toute façon, n'ayez pas peur. Dieu maîtrise le tout et ne permet rien sans vous donner la grâce de surmonter toutes vos épreuves et sauver votre âme. Vous n'allez pas commencer à dire, donc en théologie stricte, dans mes pensées, sont absolument inconnus sauf de Dieu, donc je peux lui parler, j'ai rien à lui cacher, ça c'est sûr. En confession, par peur, par respect humain, parce qu'on se dit « oh, qu'est-ce que le prêtre va penser de moi ?» Parfois, on ne dit pas tout. La confession est le lieu où on dit tout, non pas pour nous être humiliés, mais pour être humbles, et pour recevoir de manière certaine le pardon de Dieu. En ayant exposé à un inconnu, serviteur de Dieu, tenu à un secret absolu, ce qui pèse sur notre conscience. Et c'est merveilleux. Et c'est très libérateur. Et pendant des siècles, ça nous a évité de donner 80 euros par demi-heure à un psychanalyste. Sauf que c'est authentique. Il y a certes des psychanalystes et des psychiatres qui ont des connaissances techniques de certaines maladies psychologiques. Et un prêtre renverra parfois des personnes véritablement schizophrènes, véritablement paranoïaques, véritablement maniaco-dépressives, ou qu'on appelle bipolaires, médicalement ayant un besoin particulier. Donc je ne suis pas contre le fait de prendre de certains psychotropes, certains médicaments, mais si vous voulez, dans la remontée des souvenirs, vous pouvez très bien le dire à un prêtre, c'est pas gratuit, il y a le denier du culte, il y a la quête. Bon, oui, mais enfin, vous savez, on va pas vérifier si vous donnez 10%, la dîme. Non, soyez libre, paisible, mais cette capacité qu'a Dieu de connaître notre intérieur, nos pensées, dans l'Évangile, on le voit souvent. Jésus connaît les pensées. Et c'est miraculeux, c'est divin. Et là, il pardonne les péchés. Or, les actes libres, contraires à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, on en répond que face au Créateur, en soi. Quand on offense notre prochain, il y a aussi une part de demande de pardon à notre prochain. Mais fondamentalement, en effet, c'est vis-à-vis de notre Créateur que nous avons à demander pardon et que c'est à lui de nous pardonner ou pas, suivant l'authenticité de notre regret. Pourquoi, leur dit-il, pensez-vous ainsi le mal au fond de votre cœur ? Oh, un jugement, mon Dieu ! Et vous verrez que Jésus juge beaucoup. Pourquoi il juge ? Parce que c'est lui qui sait si nous sommes malicieux ou pas. Le mal, ça se constate. Si dans le métro, quelqu'un vous écrase le pied et vous donne une gifle, voyez, il l'a fait exprès. Et il vous regarde dans les yeux quand il vous écrase le pied. Si le métro s'est arrêté brusquement et qu'il vous écrase le pied par l'arrière, en tombant en arrière, il ne l'a pas fait exprès. Et si vous êtes bougon et que vous considérez qu'il l'a fait exprès, vous êtes dans l'erreur. Mais voyez-vous, cette connaissance des intentions, Jésus l'a. Et alors, vous dites, oui, mais alors, comment ça se fait? Il nous dit de ne pas juger. Oui, il nous dit de ne pas porter le jugement de condamnation. Le jugement de constat, quelqu'un qui arrive, qui rentre dans le métro, il estime que vous ne lui laissez pas assez de place, alors que les portes sont en train de se fermer, qu'il s'est engouffré, qu'il s'est jeté, qui vous bouscule et qui ensuite vous insulte, c'est pas quelqu'un de gentil. Hein, ça s'appelle le constat. Et là, vous pouvez juger. Et pas gentil, c'est pas gentil. Ensuite, est-ce que vous allez le condamner définitivement? Est-ce que vous allez considérer des circonstances atténuantes? Eh bien là, Jésus dit que ses scribes et ses pharisiens devraient mieux réfléchir avant de dire, avant d'insulter dans leur cœur Jésus, avant de l'insulter. Car ils font un jugement téméraire. Il dit, cet homme insulte la dignité divine, en s'attribuant le pardon des péchés. Eh bien Jésus leur dit, vous vous trompez et vous êtes malicieux. Vous devriez vous dire, c'est peut-être possible qu'il soit Dieu. Rien que ça. Lequel est plus facile de dire à un paralytique, tes péchés te sont remis, ou de lui dire, lève-toi, prends ton grabat et marche. Qu'est-ce que c'est ? Quel plus facile ? Et là, j'en reviens à mes chers charismatiques et aux évangéliques, protestants, qui usent d'un moyen dont le Christ a usé, c'est le miracle de guérison corporelle, qu'on ne doit pas mépriser, mais qui doit être bien connu et bien limité dans la vérité. Car c'est en effet un signe divin et créateur de détruire, anéantir des cellules malades, de créer des cellules saines. C'est le propre de Dieu. Et les guérisons sont instantanées, définitives d'un mal incurable, sont proprement divines. Voilà. Et on ne doit pas les mépriser. Et d'ailleurs, régulièrement, l'évêque de Lourdes est obligé, par le bureau de Lourdes, de faire un décret épiscopal, parce que on s'est engagé à Lourdes, à cause du nombre des miracles, de les authentifier de temps en temps. Donc il y a un bureau médical à Lourdes qui siège en permanence pour cela. Eh bien, en France et dans le monde entier, vous avez aussi des commissions médicales catholiques qui devraient plus fonctionner. pour cela. Et ce n'est pas négligeable. Et je comprends tout à fait que des personnes, dans l'apostasie silencieuse de l'Occident actuellement, veulent être consolées par des manifestations charismatiques, des dons divins accordés à des êtres humains pour manifester la présence de Dieu. Lire dans les âmes, révéler vos souffrances cachées. Parmi vous, il en est qui ont subi une grande humiliation, qui ont une querelle de famille qui les blesse. Ce soir, ils vont être consolés, leur mère va les appeler tout à l'heure et il y aura une réconciliation dans la famille. L'abbé Gelfucci, c'est merveilleux, il connaît l'avenir aussi, tout ça. Oui, mais on l'attend. Il va y avoir les 600 ans de la mort de Saint-Vincent Ferrier, qui est mort en 1417. Mais je peux vous assurer que Saint-Vincent Ferrier, lui, il le faisait certainement et de manière authentique. Il vous disait l'avenir, il vous disait le passé, il a demandé à Dieu la résurrection d'une dizaine de morts. Il a procuré la guérison à des malades par centaines. C'est un saint à miracle. Voyez. Le Padre Pio, lui, ou le Saint Curé d'Ars, lisait dans les âmes, ne pas par leur propre puissance, mais par une lumière divine, qui passait par leur ange gardien ou directement par le bon Dieu. Mais il le faisait de manière assez discrète, c'était au confessionnal. Ou alors ils annonçaient à telle personne leur avenir, mais voyez-vous, ils ne prenaient pas le micro pour le faire. Et ils ne le faisaient pas en assemblée plénière, voyez. Alors peut-être que de nos jours, le bon Dieu, considérant que tout est foutu et qu'il faut manifester des prodiges et des miracles merveilleux toutes les deux minutes, fait des méga-church où ces envoyés vous révèlent au micro, un tel à ça, un tel à ci, un autre avait un cancer, maintenant il est guéri. Mais l'Église catholique sera beaucoup plus pointilleuse, elle va dire alors, où est le dossier médical? C'était quoi comme cellule cancéreuse? Oh, mais vous mettez l'Esprit Saint, sous un microscope? Eh bien, oui. Si. Ah oui, l'Église catholique est vraiment très très exigeante. Alors ça éteint l'esprit? Ben, c'est pas si compliqué que ça, passer devant une commission médicale. Si, oui, eh bien pourquoi pas? Eh bien, Jésus, lui, n'a pas à prouver qu'il est un magicien ou Dieu. Il va tellement multiplier les miracles corporels que ça va interroger les contemporains. Et là, il met en lien le miracle et l'action divine. Le prodige, c'est ce qu'un esprit peut réaliser. Un ange ou un démon peuvent accélérer des processus vitaux, mais pas créer des cellules. Ni les faire disparaître. Il peut éventuellement les tuer. Un ange peut, dans l'action miraculeuse de Dieu, être l'instrument de Dieu pour détruire des cellules cancéreuses. Mais ces cellules cancéreuses, du coup, seront mortes, mais présentes. L'ange ne peut pas les retirer ou les désintégrer. L'anéantissement de la matière, comme la création de la matière, est un acte divin. Vous voyez ? Le prodige, c'est le déplacement. Je suis en train de vous parler, et tout d'un coup, vous avez le catéchisme de l'Église catholique qui fait ça, et qui se promène et qui se pose ici. Alors là, je suis un peu étonné, parce que normalement, le bois est mort, il a été malaxé, ça fait des feuilles, et donc il bouge plus. Et puis en plus, un arbre, ça pousse pas... Comment dire comme ça, s'il y avait une branche, n'est-ce pas, qui allait jusqu'ici, mais c'est du bois mort, c'est inerte. Donc ça bouge pas par lui-même. Il n'y a pas de principe de mouvement dans un bouquin, n'est-ce pas? Donc c'est autre chose qui le fait bouger. Qu'est-ce qui est capable de faire bouger de la matière? Un esprit. Mon âme humaine fait bouger mon corps. D'une manière extraordinaire, voyez. Si j'ai une crise cardiaque dans les 10 minutes, mon humour noir aussi. Hein. Si j'ai une crise cardiaque dans les 10 minutes, vous, ça va gâcher votre soirée. Mais vous ne pourrez pas faire bouger ma main comme ça. Voyez. Mais c'est mon âme qui fait bouger ma main. Ah mais non, c'est votre cerveau, c'est les circuits électriques qui dans la myéline et dans les neurones. Eh ben vous savez, entre mon âme qui sort de mon corps et mon âme dans mon corps, hein, il y a tout le circuit est là. Hein. C'est l'âme qui fait cette polarisation et ce pouvoir particulier du corps. C'est la différence entre la matière inerte et la matière vivante. Vous avez des scientifiques qui font la soupe originelle. Là, ils sont là avec des acides aminés, mais pas avec des cellules vivantes parce qu'ils tricheraient. Donc. Ils mettent ça dans des conditions atmosphériques épouvantables, des pressions fantastiques. Ils disent mais ça va bouger. Mais alors ils mettent des cellules mortes en quantité. Hein. Est-ce que ça va refaire une cellule avec du cytoplasme, avec une membrane, avec des mitochondries. Ils ont mis tout ça en vrac et ils mettent des pressions extraordinaires à différentes chaleurs. Alors, ah non, le vivant, c'est extraordinaire. C'est la cellule hein, ou des êtres mononucléaires, je peux vous assurer que le fait que ça bouge tout seul, c'est incroyable. Eh bien, Jésus, lui, va faire un miracle. Pour que ça soit un prodige démoniaque, il faudrait que les démons entrent dans le corps du paralytique et le soulèvent millimètre par millimètre d'une manière très très correspondante à la démarche humaine et parfaite. C'est possible. Et il est des personnes qui étaient dans des fauteuils roulants qui se sont levées par imposition des mains, par invocation, hein. Ils sont levés, ils sont partis. Seulement, les démons, à ce moment-là, doivent porter cette personne tout le temps. Ils ne peuvent pas guérir à l'intérieur du corps. Et en règle générale, ces personnes, dans ces prodiges démoniaques, quelques temps plus tard, rechutent totalement. Parce que ce n'était pas divin. Le miracle, c'était une guérison instantanée d'un mal incurable et définitive. Mal incurable, guérison instantanée et définitive. Il n'y a pas de rechute. Le Christ le fait. Voilà. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir ici-bas de remettre les péchés. Révélation. De quoi ? De l'incarnation. Car pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je guéris cet homme. Je guéris cet homme pour que vous reconnaissiez que je suis le Fils de l'homme et que je pardonne les péchés. Rien que ça. C'est l'incarnation qui est ici prouvée. Alors une guérison, c'est pas suffisant. Donc Jésus va en faire des milliers. Parce qu'à certains moments, la foule arrive avec tous les malades, et je peux vous assurer qu'il devait y en avoir des centaines. Et c'est arrivé plusieurs fois par semaine. Jésus a guéri des dizaines de milliers de malades en 3 ans. Et je peux vous assurer que ça a impressionné les esprits. Les évangélistes nous rapportent que 3 morts. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, parce que le jour où vous m'apporterez un cadavre, que vous vous mettrez en prière et que le bonhomme ou la femme va se lever, chapeau. Oui. Mais c'est très dur de contrefaire une résurrection de mort. Vous pouvez contrefaire plein de résurrections, de guérisons de paralytiques, de cancéreux et tout ça. Vous falsifiez les radios, tout ce que vous voulez. Hein. Vous avez une séance où vous dites « Oh, Esprit Saint, guéris ce malade !» Et hop, il se lève. Oui. Seulement, si vous ramenez un cadavre, ça va être plus dur. Oui. Ou alors, si vous êtes aux soins palliatifs à Jeanne Garnier, « Oh, Esprit Saint !» Voilà, madame, vous avez 42 ans, vous avez à votre 3e rechute de cancer du sein, vous faites 30 kilos, wow, 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 soyez guéri au nom de Jésus. Voilà. Et là, si vous avez la personne qui se relève et qui se met droit sur ses jambes, c'est que le bon Dieu détruit le cancer, restaure quand même quelques muscles pour qu'elle puisse se tenir debout, parce qu'en général, ils ont fondu. Et ça, chapeau. Là, je serais impressionné. Pour que ça soit une illusion démoniaque, il faut qu'en plus, il s'occupe d'elle pendant plusieurs mois, plusieurs années. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et retourne dans ta maison. Eh bien, je souhaite, à titre personnel, que nous ayons des saints à miracle qui viennent dans les prochaines années. Chiche. Mais pour l'instant, on n'a que des choses prodigieuses, mais on n'a pas de guérison impressionnante. Sauf, tiens, Mère Teresa, les deux miracles retenus pour sa béatification et sa canonisation, comme par hasard, le bon Dieu a dit, allez, moi c'est ma servante, je veux l'honorer comme il se doit. Dans son âme libre, elle m'a aimé pendant des années et des années, et elle a aimé mes enfants. Eh bien, le miracle de béatification et le miracle de canonisation, cancer. Et avec dossier médical, la personne, tac, tac. Et pour Jean-Paul II, Parkinson. Et un Parkinson, on ne guérit pas comme ça. Or, elle a été guérie de manière définitive et instantanée, en se levant le matin, après avoir prié la veille. Aussitôt le malade se leva, prit le grabat, et il était où il était couché, et sous les yeux de tous, il s'en alla chez lui, glorifiant Dieu. Saisi de crainte et d'admiration, la multitude louait Dieu d'avoir donné aux hommes une telle puissance. Élie a demandé la résurrection d'un petit garçon. Élisée a demandé la résurrection d'un petit garçon. Et on a déposé un mort à côté du tombeau d'Élisée, je crois, et le mort a ressuscité par l'intercession de l'âme d'Élisée dont le corps était là. Et chacun répétait avec étonnement, « Aujourd'hui, nous avons été témoins de merveilles, jamais on n'a rien vu de semblable. » Oui, parce que Jésus fait des miracles tout le temps. Au moment où il se révèle, ça va être sans arrêt. Et ça, il faut bien le retenir. Jésus sortit, page 121, et s'en alla de nouveau sur le bord du lac. Tout le peuple accourait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit, assis à son bureau de péage, un publicain nommé Matthieu, ou Lévi, fils d'Alphée. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu, abandonnant tout, se leva et le suivit. Vous savez, c'est le Caravage qui a fait un magnifique tableau du choix de saint Matthieu, sauf qu'il le fait dans une taverne, parce que le Caravage vivait dans des tavernes. Et donc, mais en fait, il était un bureau où il recevait les gens pour les voler, en prenant une partie des impôts supérieurs pour les Romains. Tête détestée. Quelques jours après, il donna au Seigneur et à ses disciples un grand repas dans sa maison. Il y invita des publicains et des pêcheurs, publicains comme lui, collecteurs d'impôts avec une belle marge entre l'occupant romain et sa cassette personnelle, et des pêcheurs, des hommes qui faisaient bonne bombance ou eau, des prostituées. Tout ça. Jésus se trouva donc entouré d'un nombre considérable de convives, parmi lesquels beaucoup de publicains et de pêcheurs. Déjà plusieurs d'entre eux s'étaient attachés à Jésus. Voyant cela, les scribes et les pharisiens murmurèrent et, après le repas, ils dirent aux disciples qui se trouvaient avec Jésus au bord du lac « Pourquoi votre maître et vous-même mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus entendit ce reproche et répondit « Le médecin n'est pas pour les bien portants, mais pour les malades. Allez et apprenez ce que signifie cette parole. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Je ne suis pas venu appeler les justes à la conversion, mais les pécheurs. » Qu'est-ce que veut dire Jésus? Le sacrifice, c'est il y a deux sens dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est de faire les choses sacrées. Donc de donner, de, comment dire, aux pauvres, de faire des efforts de vertu, de faire construire des lieux de prière. Mais aussi, le sacrifice, ça peut être aussi de regretter ses péchés et de réparer ses fautes. Donc ici, le mot sacrifice, c'est plutôt dans le sens de celui qui fait des œuvres, mais qui n'a pas forcément à réparer ses péchés. Il faut bien saisir les moments où les mots sont utilisés. Je veux la miséricorde, et non ici la vertu héroïque. Mais bien sûr que Dieu veut le sacrifice. Bien sûr que Dieu veut celui qui offre pour les autres et qui répare, pour lui-même, pour les autres. Mais ici, ça veut dire, je veux d'abord que la personne regrette ses fautes et qu'elle reçoive le pardon, avant d'être une personne vertueuse qui offre des mérites supplémentaires. Voilà ce que veut dire cette phrase. Je ne suis pas venu appeler les justes à la conversion, mais les pécheurs. Et là, ça nous fait réfléchir aussi. Et c'est du catéchisme de base. Il y en a qui sont malicieux, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont sensuels, il y en a qui sont des débauchés, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui n'ont aucun problème de sensualité, mais qui sont des salauds, et qui aiment bien faire souffrir les autres, qui aiment bien mettre la zizanie dans une famille, ou qui aiment mettre la zizanie dans une communauté. Il y a des pécheurs. Et puis vous avez des justes. Dieu dit qu'il y a des justes, et ça existe. Vous avez des gens bons, bienveillants, qui pêchent très peu. Mais qui sont des instruments de paix, qui sont pas libidineux, qui vont pas pousser les autres à tomber dans la vanité du péché d'impureté ou dans tous les délires sexuels possibles. Mais vous avez des personnes qui vont être des sources de réconciliation dans les familles, qui seront très pacifiques. Il n'y a pas que des péchés sous la ceinture, hein. Vous avez les péchés au-dessus de la ceinture qui nous damnent plus sûrement. Parce qu'en fait, le péché de sensualité ouvre la porte, si vous voulez, à une faiblesse d'âme. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous maîtrisions le plus possible notre sensualité, parce qu'à la fin, nous devenons durs et insouciants. Il y a des justes et il y a des pécheurs. Et Jésus dit, mais je suis venu pour prendre les pécheurs. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit pas, oh cher publicain, mais continuez à voler, c'est très bien. Oh chère prostituée de luxe, des escort girls de l'époque, hein, comme Marie-Madeleine n'était pas une prostituée de la rue. Son frère était très riche. Hein. Si elle avait voulu se ranger des voitures, elle allait chez Marthe et Lazare. Hein. Non, c'était une femme qui aimait les plaisirs. Mais oui. Qui envoyait la vanité aussi à un moment donné. Et par la lumière de Dieu. Et Dieu est là pour manger avec nous, mais pour nous sortir du péché. Il y avait là aussi des disciples de Jean. Alors, Jean le Baptiste était sévère pour les hypocrites, doux avec les voleurs, les pécheurs, les prostituées, mais pour leur conversion. À leur tour, ils s'approchèrent. Nous et les pharisiens, dirent-ils, nous jeûnons souvent et nous multiplions les prières. Vous voyez, les disciples de Jean le Baptiste, c'était pas un rigolo, hein, pendant près de 30 ans, il a été dans le désert, à manger des sauterelles, du miel, à être habillé avec une peau de chameau, dans le genre jouisseur, on a vu mieux. Et donc, Saint Jean-Baptiste était austère. Pourtant, dans sa prédication, il a touché des personnes qui étaient des pécheurs faibles, et qui auraient pu avoir honte de leur vie. Et il n'a pas été très dur avec eux. Il a fustigé les hypocrites. Mais en même temps, il est mort parce qu'il a dit à Hérode qu'il ne devait pas épouser la femme de son frère. Et donc il était quand même un père la morale aussi, Saint Jean-Baptiste. Pourquoi vos disciples ne jeûnent-ils pas, mais mangent et boivent? Vous voyez, actuellement, nous pourrions jeûner le mercredi, le vendredi et le samedi. Hein? Ouf. Pas seulement le vendredi, mais non, le samedi en l'honneur de la Vierge Marie, parce qu'on est bientôt à la fin des temps, que ça va, tout va péter, que Notre-Dame de Fatima nous a dit de faire pénitence, à Lourdes aussi, donc voilà. Hein. Oui, mais enfin, à quoi ça sert de ne pas manger? Mais de toute façon, le jeûne chrétien, c'est seulement un repas et un bol le matin et une soupe le soir. C'est pas non plus, comment dire, un jeûne très difficile. Vous avez dans la tradition musulmane, le jeûne, c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Mais après le coucher du soleil, vous pouvez manger comme vous voulez. Les musulmans qui craignent Dieu et qui ne sont pas hypocrites vont manger modérément le soir. Parce que s'ils font ripaille tous les soirs pendant 30 jours pendant le ramadan, on ne voit pas trop l'esprit de mortification. Eh bien, le jeûne, c'est pour nous attrister. Parce que normalement, quand on ne mange pas à sa faim, on n'est pas content. On est un peu vaseux, vous voyez. Et du coup, on se dit, mais pourquoi je ne mange pas? C'est complètement idiot. Hein? Eh bien, c'est pour offrir quelque chose à Dieu. C'est un sacrifice. Ils mangent et boivent. Eh bien, voilà ce qu'il va répondre, le Christ. Et ça, c'est une petite merveille. Les amis de l'époux, répondit Jésus, peuvent-ils jeûner au banquet nuptial? Alors, c'est la traduction du chanoine Weber, hein. Mais c'est très beau.